Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Content de vous retrouver pour Culture Média. Au menu, tous les médias et toutes les formes de culture qui ont aujourd'hui spécial illustré, comme dit mon kiosquier, de la BD et des mangas. Vous retrouverez évidemment en deuxième heure Bertrand Chamerois pour son écran de veille, Eva Rock pour le zapping du lendemain, puis Hélène Manarino et son portrait inattendu. Mais avant cela, ils sont déjà dans ce studio, le journal des médias d'Antoine Janton et les audiences avec Louise Bernard. Notre infomédia va se pencher sur la revue French Mania, la dernière née de la presse cinéma en France, qui publie aujourd'hui son deuxième numéro à deux semaines de la réouverture des salles. Au sommaire, un dossier sur les Français à Hollywood, oui, car French Mania ne parle que du cinéma français et francophone. Explication en français donc avec Ava Kahn, c'est la rédactrice en chef de French Mania. Et puis nos invités, Myriam Sera qui présente La Nuit du Ramadan ce soir sur France 2, juste avant minuit, mais ça va durer longtemps. Et Laurence Godon, la toute nouvelle coordinatrice de l'unité des émissions religieuses de France Télévisions. C'est elle qui est en charge notamment Le Jour du Seigneur, dont l'audience a pris 3 points en un an. Enfin, le groupe L'Impératrice, des Français inclassables qui font de la pop, de la disco, un mélange de tout ça, qui remplissent les salles en Turquie, à Los Angeles, mais également des stades au Mexique. Ils sortent un nouvel album magnifique, ça s'appelle Tako Tsubo, c'est du japonais. Ça veut dire quoi? Ben justement, ça sera ma 7e question, parce qu'en premier, c'est trop facile. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h, Culture Média, c'est parti. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Bonjour Antoine Janton.
Salut Philippe, bonjour à tous.
Antoine, au sommaire de votre journal des médias.
Une première dans le monde des chaînes info, nouvelle maison et nouvelle émission pour Augustin Trapenard et puis une série documentaire détonnante sur Napoléon.
Mais d'abord les audiences avec vous Louise, qu'ont regardé les Français hier soir?
En tandem cette semaine encore, c'était la suite de la saison 5 sur France 3, toujours leader avec 4 370 000 téléspectateurs. Légèrement en baisse, mais quand même un bon niveau, 18,5% de part d'audience. Ensuite, c'était sur TF1 le lancement de la nouvelle série américaine Lincoln à la poursuite du Bone Collector. On vous en parlait hier dans le journal Les Médias. Deux épisodes inédits qui ont attiré 3 700 000 téléspectateurs, 15,7% de part d'audience. C'est un score correct pour un lancement. Puis c'est M6 avec là aussi un lancement. C'était la saison 4 du meilleur pâtissier Les Professionnels. Bon score, hein, 2 550 000 téléspectateurs. C'est le deuxième meilleur lancement depuis la première saison en 2017, 11,6% de part d'audience. À noter sur W9, le film De l'autre côté du périph', au-dessus du million. Et puis je vous donne quand même, c'est pas dans l'ordre, mais je vous donne le score du documentaire L'histoire secrète de la résistance, puisqu'on recevait hier Caroline Bénaroche, 1 870 000 téléspectateurs, 8,2% de part d'audience.
C'est pas mal pour un programme aussi ambitieux.
Culture Média.
Le journal des médias avec vous Antoine Janton. On va rester au chapitre audience avec une première, un tournant symbolique, comme l'écrit Le Figaro ce matin.
CNews est passé devant BFM TV. C'est une première, donc exception faite de la semaine de grève à BFM en juin dernier. 2,7% de part d'audience pour la chaîne info du groupe Canal+, contre 2,5% à celle du groupe Altice. Des chiffres qui ne valent que pour la journée de lundi. On aura ceux d'hier en fin de matinée. Mais ils confirment une tendance entreaperçue la semaine dernière. CNews avait alors considérablement réduit l'écart avec BFM, 0,1 point d'écart pendant 2 journées. Des bons résultats que CNews doit notamment à ses émissions Face à l'info avec Éric Zemmour et L'heure des pros de Pascal Praud.
Cela dit, sur la durée en mensuel, BFM reste large leader des chaînes info.
Oui, 2,9 contre 1,8% de part d'audience le mois dernier. C'est l'un des points qu'a souligné le directeur de la chaîne, Marc-Olivier Fogiel, dans un mail envoyé hier aux salariés. Gardons notre ligne, leur a-t-il dit. Par ailleurs, il explique aussi, comme il l'avait déjà fait ici même dans Culture Média, que CNews est devenue une chaîne de débat et d'opinion, un modèle qui s'adresse à une autre cible, dit-il.
Le groupe Canal+, encore, des journalistes devraient quitter le service des sports.
Entre 5 et 10, des départs négociés, selon l'hebdomadaire Le Point ce matin. Ces journalistes pourraient bénéficier d'une clause de conscience améliorée, écrit le journal. Leur départ arriverait après plusieurs licenciements dans un service en crise depuis la fin de l'an dernier, et notamment le licenciement de Stéphane Guy. Parmi les derniers licenciements en date, 5 récemment révélés par le site lesjours.fr.
Une nouvelle émission pour Augustin Trapenard.
Elle s'appelle Plumard, une émission littéraire mensuelle qui sera diffusée non pas à la télé mais sur une plateforme payante, Brut X, on vous en a déjà parlé ici. Son concept, interroger un invité sur un canapé convertible, d'où le titre de l'émission Plumard, et mobile, le lieu changera en fonction de l'invité. Un rond-point par exemple pour Florence Aubenas, référence entre autres aux Gilets jaunes auxquels la journaliste avait consacré une grande enquête dans le journal Le Monde. Florence Aubenas qui sera l'invité du premier numéro dans 8 jours, jeudi 13, un peu plus de 4 mois mois après l'annonce du départ de Canal+ d'Augustin Trapenard. Une chaîne qui n'est plus la même, dit-il dans un entretien accordé à Télérama. Il dit aussi avoir reçu quelques demandes, pour ne pas dire quelques pressions de la direction, ce qui l'a poussé à partir.
Des pressions pour inviter des écrivains qu'il ne souhaitait pas recevoir dans son émission. Brut recrute chez BFM TV.
La maison mère de Brut X, dont on vient de parler, va accueillir Sarah Lou Cohen, qui dirige le service police-justice de BFM. Elle va devenir la directrice de la rédaction de Brut.
Et puis le focus programme du jour, vous nous l'avez annoncé, c'est une série documentaire sur Napoléon.
Une série singulière parmi tous les documentaires proposés à l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon. Napoléon 21, c'est son titre et c'est sur Vice TV. Série singulière, donc à la fois dans sa forme, on suit deux journalistes, Mathilde Martin et Sébastien Vesolovski, et sur le fond, singulière sur le fond, qui s'intéresse encore à Napoléon en 2021. C'est la question à laquelle ces deux journalistes tentent de répondre en quatre épisodes. Un documentaire moderne, selon Romain Marcilli, le directeur général de Vice TV France.
La modernité, elle passe par le rythme, par le propos, et puis par les codes journalistiques de Vice, c'est-à-dire extrêmement incarné, très rythmé, sur le terrain, accorder beaucoup d'importance aux témoignages, essayer aussi de donner la parole aux personnes qu'on n'entend pas forcément le plus souvent sur ces questions-là, notamment dans les chaînes plus traditionnelles, plus institutionnelles. Il y a toute une panoplie, une mosaïque de personnes très différentes, souvent passionnées, passionnantes, qui étaient prêtes à parler de Napoléon, ce qui constitue un témoignage autant sur Napoléon que sur l'époque, et peut-être même plus encore sur notre époque que sur Napoléon.
Et parmi ces personnes passionnées et passionnantes, il y a le maire d'Ajaccio, la ville natale de Napoléon, Laurent Marcangeli, l'auteur de Napoléon, punk, dépressif et héros, c'est Philippe Perfettini, et puis une médium qui prétend pouvoir aider Mathilde Martin à interroger Napoléon, et puis un conservateur de musée si passionné qu'il souffle les questions à la journaliste. Les séquences ont été gardées au montage, bref, des regards décalés qui permettent de proposer une offre complémentaire.
Les travaux qui sont faits par d'autres radios et d'autres chaînes de télé sont souvent très bons, ils parlent à leur public. Nous, il y a un enjeu aussi, notre cible est une cible beaucoup plus jeune, 15-35 ans, donner le goût de l'histoire, faire réfléchir à propos de l'histoire, commémorer ces grandes figures, rentrer dans le débat, c'est des éléments qui nous semblent importants pour construire nos mémoires, pour construire nos opinions en tant que citoyens, parce que c'est impossible de comprendre le présent ou d'envisager le futur si on ne s'inscrit pas dans une tradition historique.
Romain Marcilli, directeur général de Vice TV France, Napoléon 21 avec Mathilde Martin et Sébastien Vesolovski. Le premier des quatre épisodes est déjà disponible sur MyCanal. Les trois autres seront diffusés chaque mardi à 22h sur Vice TV et disponibles ensuite, encore une fois, sur MyCanal.
Toutes ces infos, vous pouvez les retrouver avec d'autres, évidemment, dans la newsletter Média d'Europe 1. C'est gratuit, il suffit de s'inscrire sur europe1.fr. Merci Antoine Janton, merci Louise Bernard. À demain pour un nouveau journal des médias et les chiffres Audimat. Dans un instant, notre info média du jour qui va s'intéresser à French Mania, une belle revue sur le cinéma français et francophone et qui arrive à se démarquer des autres. Comment ? Réponse avec Ava Kahn, c'est la co-rédactrice en chef de la revue. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
C'est la dernière année de la presse cinéma en France, la revue French Mania qui publie aujourd'hui son deuxième numéro près de 8 mois après la parution du premier et à 2 semaines de la réouverture des salles. Au sommaire, un dossier sur les Français à Hollywood, réalisatrices, réalisateurs, acteurs et pour cause, ce MOOC, comme on dit, ne parle que du cinéma français et francophone. Un choix éditorial fait entre autres pour se démarquer dans un marché très concurrentiel. Bonjour Ava Kahn.
Bonjour Philippe.
Vous êtes la co-rédactrice en chef de French Mania avec Franck Finance. Madureira, faut pas que je me trompe. Vous êtes également critique de films, on vous voit notamment dans Le Cercle sur Canal+. De la musique pour commencer, celle de Sidney Bechet, Si tu vois ma mère, 1952, c'est le morceau qui ouvre Minuit à Paris de Woody Allen. Woody Allen, justement, à qui vous consacrez le premier gros papier de la revue. Oui. Pas dans les choses comme ça, mais on a fait mieux comme Réal Français, non?
Oui, non, c'était pour s'intéresser. On a une rubrique qui s'appelle le French Verse. Donc on essaye d'aller trouver les marqueurs, les traces des acteurs français, du cinéma français, dans les films américains. Donc le premier numéro, c'était Wes Anderson, le cinéma de Wes Anderson, et donc on est allé enquêter sur ça. Et puis le deuxième, Woody Allen, qui a évidemment un amour fou pour Paris, pour la France, et ça, ce n'est plus à prouver.
Et c'est vous qui signez l'article. Pourquoi ce choix de Woody Allen? Vous l'avez dit, je vais dire le sous-texte, réalisateur également désormais controversé aux États-Unis avec ses accusations d'inceste.
Alors, parce que c'est l'un de mes réalisateurs préférés, alors je n'ai aucun problème à le dire, je trouve que c'est un cinéaste unique en son genre, il a une filmographie d'une richesse infinie, et donc je suis présidente aussi du Woody Club à Paris, qui est un ciné-club au Christine Cinema Club depuis quelques temps déjà, depuis 2016. Donc ça me semblait évident, en fait, de commencer la revue avec le French Verse et avec ces films merveilleux, parce qu'on y retrouve justement Marion Cotillard, et ouais. On en parle plus tard dans le dossier des Français à Hollywood. Enfin voilà, il y a évidemment plein de visages qui nous sont familiers dans le cinéma de Woody Allen. Il y a Léa Seydoux également, enfin il y a Guillaume Gouix, ouais. Audrey Fleurot.
Mais ma question était pourquoi ne faire aucune mention à l'affaire? Quitte à dire que justement, selon vous, elle est secondaire ou c'est pas le sujet de votre magazine.
C'est pas du tout le sujet. On voulait vraiment se concentrer sur les films. Et là, il y avait absolument pas de prisme idéologique. C'est un vrai article journalistique sur le cinéma de Woody Allen. Et c'est pour ça qu'on a choisi comme titre La France et les Français dans le cinéma de Woody Allen.
Voilà. Donc vous tournez le dos à la culture du woke qui consiste justement
non,
à occulter.
Non, pas tout à fait. Mais en tout cas, pas pour cet article.
Vous auriez pu le supprimer.
Oui.
Vous auriez pu ne pas traiter le sujet.
Pas du tout.
Le morceau de Sidney Bechet qu'on a écouté il y a quelques instants, c'est la chanteuse Barbara Carlotti, oui. Qui l'a sélectionnée. Elle vous propose sa playlist, 11 titres pour 11 des articles de la revue. C'est une manière de ne pas oublier la musique, un des éléments clés d'un film, ou c'est une manière de lire le magazine chez soi avec de la musique qui tourne?
Les deux, en fait. On avait eu cette idée, dès le premier numéro, d'inviter soit un artiste mélomane, soit une chanteuse ou un chanteur à venir justement créer cette playlist. Donc on leur envoie le sommaire, et puis en fonction, eh bien, voilà, ils nous proposent différents morceaux qui peuvent se lire, donc en même temps... et s'écouter en même temps qu'on lit le magazine. Et puis bien sûr, la musique au cinéma est essentielle, et on a une rubrique qui s'appelle Métier, et justement dans ce numéro 2, on met à l'honneur un compositeur de musique de film qui s'appelle Amine Bouafa.
Alors ici on est une émission média, je vous apprends rien. Le cinéma est l'un des sujets les plus traités par la presse, que ce soit la presse spécialisée ou même la presse quotidienne. Pourquoi avoir lancé une revue sur le cinéma?
Ah là là, parce qu'on l'aime passionnément, le cinéma. En fait, on pense, on mange, on vit, on rêve cinéma. On a monté ce titre avec Franck Finance Madureira donc en 2017. Et d'abord, pour ne pas être frustré, parce que c'est un temps long de créer une revue, ça ne se fait pas du jour au lendemain, on a créé un site internet pour pouvoir parler de l'actualité du cinéma français et francophone, puisque ce sont vraiment les deux univers qui nous plaisent le plus. Ce n'est pas une niche. Et puis on voulait finalement dire aussi à travers à la fois la revue et le site que le cinéma français était pluriel, qu'il était divers, que les jeunes auteurs nous intéressaient beaucoup, qu'on était très émus par eux.
Je ne doute pas du tout du cinéma. Moi, ma question, c'était autour de la presse. Qu'est-ce qui vous différencie des autres magazines de cinéma ?
Disons qu'on n'a pas voulu justement prendre le pli du magazine. On a vraiment décidé de sortir un objet, un livre, quoi. Ouais. Vraiment, on l'a pensé et
MOOC,
conçu
comme ça.
MOOC,
c'est la contraction de magazine et de book.
C'est ça, exactement. Et puis on voulait que ce soit un objet de librairie et non pas un objet de kiosque. Donc on a essayé de casser un petit peu les codes, de chapitrer cette revue comme un livre avec plusieurs sections, plusieurs rubriques, de proposer un contenu vivant, riche, à la fois les coulisses du cinéma et à la fois aussi un regard analytique, une réflexion sur l'industrie comme sur les films, et puis la manière dont les artistes travaillent. Donc voilà, on voulait recouper toute cette matière. C'est vraiment la revue dont on rêvait.
Revue semestrielle, donc deux numéros par an, c'est édité par les éditions du Rocher.
Tout à fait. C'est la première revue, enfin l'une des premières revues de leur catalogue, en tout cas.
Qui est un vrai éditeur, Capignon sur rue, sur la place de Paris. Pourquoi ce choix? C'est vous qui avez démarché les éditeurs? Comment ça s'est passé?
Alors en fait, j'avais écrit un livre sur Game of Thrones décodé aux éditions du Rocher. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec cet éditeur, et puis très vite, je leur ai parlé de French Mania et de cette envie justement de créer une revue pas comme les autres, très différente de ce qu'on trouve, avec dedans un regard amoureux. C'est le slogan, c'est le sous-titre de French Mania, un regard amoureux sur le cinéma français.
Mais oui, un regard amoureux sur le cinéma français et francophone, c'est votre phrase d'accroche. Quand on est amoureux, on n'est pas très critique. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'article critique de film dans la revue?
Non, mais il y en a sur le site, voilà. Donc on essaye de créer une complémentarité, encore une fois, entre le web et le papier pour qu'on s'y retrouve. Donc bien sûr que quand on est amoureux, ça veut pas dire bisounours, ou ça veut pas dire, je ne sais pas, qu'on ne voit pas les défauts des uns et des autres. Non, au contraire, mais dans cette revue, pour ces 180 pages, on voulait vraiment parler que ce dont on aime, quoi.
Voilà, et les films que vous aimez pas, vous n'en parlez pas.
On en parle sur le site éventuellement.
Donc de quoi parlez-vous dans French Mania? Les films que vous aimez, les jeunes talents, les premiers films, c'est surtout ça l'angle. Où est-ce qu'il vous arrive de voler au secours de la victoire?
Non, c'est surtout les premiers films qui nous intéressent. Je suis aussi au comité de sélection de la Semaine de la Critique à Cannes depuis quelques années déjà. Et donc, c'est vrai que je m'intéresse beaucoup à la jeune production, aux jeunes talents, aux jeunes artistes. Et donc, ça nous semblait tout à fait naturel d'aborder le cinéma français à travers ce prisme-ci, à travers le prisme de la jeunesse. Et c'est pour ça aussi qu'on parle de regard, parce que la jeune génération, je trouve, en a un.
Puisque vous parlez de regard, les premiers films, les jeunes talents, par exemple avec Chris Hubby, grand reporter, ouais, photographe, il va tourner son premier film, le tournage doit commencer en novembre, son titre c'est Mintaka, un film dont il vous livre au passage, plutôt dont il vous livre quelques passages, ouais, dans une rubrique étonnante, ça s'appelle Moodboard. Qu'est-ce que c'est, de quoi s'agit-il, c'est quoi un moodboard? Je vais le montrer à la caméra pour les gens qui nous regardent sur europe1.fr pendant que vous nous expliquez ce que c'est.
Alors on a lancé cette rubrique dès le premier numéro, un moodboard, c'est l'ensemble des inspirations, des références, des humeurs de travail d'un réalisateur. Alors pour le premier numéro, c'était Sébastien Marnier qui nous offrait le moodboard de son troisième long métrage, L'Origine du Mal, qui vient d'être tourné. Et donc là, c'est Chris Hubby, qui est donc reporter de guerre, qui nous a communiqué un certain nombre de matières. Alors c'est des photos de ses reportages, c'est aussi des storyboards. Donc le storyboard, c'est du dessin de séquences, on sait clairement où est-ce qu'on en est dans le scénario, voilà. Donc c'est très intéressant et on trouvait ça super de donner cette matière au lecteur, quoi, parce que évidemment qu'on parle souvent beaucoup des films finis, et donc on a souvent les critiques à lire une fois les films terminés, mais nous ce qui nous intéresse c'est aussi les coulisses et comment se font ces films, et donc on donne la parole à celles et ceux qui les font.
Justement, un mot, si vous avez choisi ce premier film, Mintaka, c'est pas par hasard, que va raconter ce film?
Eh ben, c'est un film, c'est un thriller plutôt dans un milieu hostile qui devrait se tourner en Tunisie, et puis on suit un jeune homme dans plusieurs geôles qui est retenu prisonnier et qui va connaître l'enfer du désert, et c'est avec Nawel Perez Biskaya, ouais, et Avzia Herzi.
C'est tourné en Tunisie, mais ouais, ça raconte pas la Tunisie, non, ça raconte la Syrie
tout
et ça
fait
raconte la guerre. C'est
ça,
beaucoup plus la Tunisie, c'est,
voilà,
pour des raisons de praticité qu'il va aller tourner en Tunisie.
C'est ça.
Donc on n'imagine pas que ce soit l'enfer en Tunisie.
Non, non, pas du tout. Non, non, il le recrée, cet enfer en Tunisie, en tout cas.
Quatre grandes parties dans French Mania, lesquelles? Réponse avec Kava Kahen, c'est la co-rédactrice de cette revue qui sort en ce moment son deuxième numéro seulement. À tout de suite.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Ava Kahen, co-rédactrice en chef de cette revue semestrielle. C'est un MOOC, ça s'appelle French Mania. Il s'intéresse au cinéma, mais seulement le cinéma français ou francophone. Quatre grandes parties, disais-je, dans French Mania, à l'œuvre, sur le travail créatif. On vient d'en parler avec ce moodboard. Rencontres sont des interviews, feuilletons. On y parle de séries en tout genre, on va y venir. Et le dossier, dans ce numéro, le dossier est consacré aux Français à Hollywood. Compte tenu de l'actualité, à savoir les Oscars, il y a dix jours, on s'est dit, bim, ils ont tapé dans le mille. D'ailleurs, vous parlez de Florian Zeller, Fazer, mais quand on vous lit, on comprend que vous avez écrit les papiers avant.
Tout à fait. Bah,
la cérémonie, ça vous a frustré qu'il n'ait reçu que l'Oscar du meilleur scénario adapté?
Alors, non, ça m'a pas frustré, je me réjouis qu'il ait reçu cet
qu'il
Oscar.
Qu'il n'ait eu que ça, parce qu'il était en lice pour 6.
C'est déjà forcément génial. Enfin, ouais, voilà. Et puis la prestation d'Anthony Hopkins qui a été aussi récompensée. Non, ce que je disais tout à l'heure, c'est que justement, on peut parler de l'actualité sur le site de French Mania, donc il n'y a pas de frustration à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'on a pensé ce dossier il y a déjà un certain moment, avant en tout cas ces cérémonies de remise de prix internationales. Mais il y avait des tendances, il y avait des marqueurs, évidemment, voilà. Des éléments qui nous mettaient la puce à l'oreille, mais c'est surtout une histoire qui nous fascine, l'histoire des artistes français à Hollywood. Et elle n'est pas exhaustive, hein, cette histoire, même si elle occupe 50 pages dans la revue, mais on aurait pu en faire 180. Mais on a voulu vraiment raconter notre histoire à travers justement des parcours singuliers et de prêter la voix à certains talents qui vont travailler à Hollywood.
Et vous parlez d'une des pionnières, sinon la pionnière, à être une Française qui est partie à Hollywood, Alice Guy, ouais, réalisatrice prolifique, tombée dans l'oubli et qui commence à sortir de l'oubli d'un mot, son histoire.
Oh là là, il faudrait beaucoup plus d'un mot, mais oui, elle a été effacée de l'histoire par Méliès, mais elle est absolument formidable. Il y a plein de plateformes en ce moment qui diffusent justement les films d'Alice Guy et je vous encourage à aller les voir. Ça a été une pionnière et elle est allée pour défendre les films de la Gaumont jusqu'à New York, puisque c'était à New York au début que se trouvait l'industrie du cinéma et non pas Hollywood.
Une autre première pionnière, je vais arriver à le dire avec ce masque, du moins c'est comme ça que vous la présentez, c'est l'actrice et réalisatrice Julie Delpy. Pourquoi parlez-vous à son sujet de pionnière ?
Parce qu'elle est unique en son genre, elle aussi. Et puis c'est vrai que c'est une actrice qu'on a vue dans le cinéma de Richard Linklater, qui nous a tout de suite fait beaucoup d'effets. Et puis, qu'il le dit très justement dans l'interview, hein, elle n'est pas dans le système, elle n'est pas dans le sérail. Hollywood, finalement, c'est très loin pour elle. Elle adore le cinéma américain, ça se sent même dans ses propres films, je trouve. On y retrouve certains marqueurs.
Parce qu'elle tourne là-bas et en anglais. Hein.
Absolument.
Et le prochain dans la production américaine.
Exactement. Mais en même temps, elle est aussi système D, tout ça, débrouille. Et donc, on aime bien ces cinéastes qui travaillent de manière indépendante. C'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup dans French Mania au cinéma d'auteur et au cinéma indépendant.
Les Français à Hollywood, qui est le plus demandeur dans l'histoire ? Sont les Français ou les studios hollywoodiens ?
C'est une bonne question. Je pense qu'il y a certains Français qui ont quand même un rêve américain à aller accomplir. Hein. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, oui, de plus en plus, les studios ont des deals. On parle beaucoup de coproduction. Donc forcément, qui dit de l'argent français dit faire venir un acteur ou une actrice française dans un film. Et voilà, oui, ça s'explique.
Alors, j'ai cherché dans la revue des noms, les noms des deux plus grandes stars françaises actuellement aux États-Unis, Omar Sy, Danny Boone. Ils sont mentionnés qu'une seule fois au détour d'une phrase. Pour quelle raison ? Ça vous fait sourire ?
Ça vous a fait sourire.
Mais... Si.
On en parle effectivement. Alors, on parle notamment de Danny Boone et de Omar Sy avec la critique internationale parce qu'on trouvait ça intéressant justement de demander à des critiques américains ou des critiques canadiens comment ils percevaient la success story de certains Français à Hollywood. Ouais. Et c'est vrai que les noms qui reviennent tout de suite, ce sont ceux d'Omar Sy et de Danny Boone. Après, Danny Boone vit à Los Angeles, mais n'a pas encore connu de succès américain. C'est pour ça qu'on ne fait que le citer.
Et Omar Sy, alors vous l'habillez un peu pour l'hiver, parce que moi je pensais qu'il cartonnait là-bas. Et je vous lis Omar Sy, le plus populaire des comédiens français, acceptant des rôles secondaires dans des franchises ultra populaires pour espérer séduire l'Amérique, à savoir X-Men, Jurassic World, Inferno. Dans ma tête, il avait des gros rôles dans ces films-là.
Non, c'est des tout petits rôles, c'est des apparitions. Et puis c'est ce que nous dit justement l'une des critiques américaines, Lisa Nicholson. On ne voit même pas son nom sur l'affiche américaine. Donc voilà.
Ouais. Hollywood fait rêver, un rêve qu'ont atteint certains réalisateurs français, il faut le dire.
Pas tous.
Des réalisateurs de films d'action comme Jean-François Richet ou Florent Emilio Siri, ça n'a pas duré. Ils sont rentrés en France, pourquoi Hollywood ne leur a pas réussi ?
C'est une vraie bonne question. Je pense que c'est une machine. C'est une industrie qui...
Est-ce que c'est structurel ou est-ce que c'est conjoncturel ?
Tout
le monde ne réussit pas tout le temps.
Ou est-ce
que
c'est une réponse à la Normande ?
La manière de travailler d'Hollywood qui ne convient pas aux Français.
Après, il y en a certains qui ont plus les codes que d'autres. Je pense beaucoup, évidemment, à l'écurie Besson, à tous ces réalisateurs que vous avez cités, Louis Leterrier, Alexandre Aja, pour le coup, a complètement les codes de l'industrie américaine, ne fait que des films blockbusters.
Alexandre Aja, ce sont des films d'épouvante.
Tout à fait, Piranha. La colline des yeux.
Terrible.
Terrible film. Il a trouvé les codes.
Je vais juste le dire comme ça. Je vais faire une petite reco. Je n'ai jamais peur au cinéma, sauf avec La colline des yeux. Je n'ai jamais vu un film qui fait aussi peur que ce film d'un Français, Alexandre Aja.
Alors que Piranha 3D est très drôle. Il y a beaucoup d'humour. Donc ça, c'est aussi la série B. Enfin, bon, voilà, ça flirte avec tous ces codes. Mais c'est une culture que des cinéastes comme Aja ou Leterrier ont complètement fait leur. Donc du coup, c'est ça qui est intéressant. Et puis, il y a d'autres carrières qui sont plus délicates. Mathieu Kassovitz, quand effectivement il part à Hollywood et qu'il fait Babylone AD, le tournage est un enfer, son acteur principal est dictatorial sur le tournage, c'est absolument affreux et c'est beaucoup d'argent en jeu quoi aussi, et donc c'est vrai que c'est pas les mêmes sommes pour le cinéma français et pour le cinéma américain, donc je comprends vraiment qu'on ait envie d'aller tourner aux États-Unis, mais c'est vrai que je suis plus sensible à des carrières comme celle de Dupieux, qui prend sa petite caméra, qui va sur le sol américain et qui fait des films singuliers à sa façon, sans pour autant chercher à taper dans l'œil du marché américain, justement.
Quentin Dupieux, il y a un film sur lui dans French Mania. Dans votre revue, il y a également une section feuilleton, on l'a dit, dans laquelle vous parlez de séries. Que viennent faire des séries dans une revue consacrée au cinéma ?
Alors moi, j'ai toujours écrit sur les séries et le cinéma. À la base, on avait monté un magazine qui s'appelait Clap, qui était un magazine généraliste de cinéma et de séries. Et puis aujourd'hui...
Non mais
surtout,
pour vous, c'est pas deux genres différents ?
Ah non, pas du tout. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a une vraie fusion, justement, entre ces deux univers... qui sont qui ne sont plus du tout imperméables l'un à l'autre. Et on le voit par exemple avec la série En Thérapie. Hein. Mmh. C'est pas anodin que deux cinéastes comme Toledano et Nakash viennent aujourd'hui réaliser pour la télévision. Donc ça nous semblait très important d'évoquer ça.
Il y a des puristes qui nous écoutent et qui vont hurler et qui vont dire que la fameuse phrase de Godard, la télévision on baisse les yeux, le cinéma on lève la tête.
Eh ben non, je crois
qu'au contraire. Et maintenant il y a des écrans géants, ça se regarde absolument pas de la même façon le cinéma, les séries.
Oui, oui, oui. Mais moi je trouve qu'il y a des choses très réjouissantes dans les séries et nous ce qui nous intéresse à travers ce feuilleton. Alors, on raconte, c'est Xavier Le Herpeur hein, qui raconte la grande histoire des séries françaises. Et justement, dans la télévision, il y a des questions de société qui, enfin, dans les séries, des questions de société qui sont posées et qui nous intéressent. Et donc, on avait envie de parler aussi de diversité, de représentation, des thématiques LGBT. Et ça se passe davantage, souvent, sur le petit écran que sur le grand.
Alors, c'est en plusieurs épisodes, cette grande histoire des séries françaises, en 4 épisodes. Là, on est au deuxième. Ça parle des nuls, ça parle de plein de choses. Ouais. Vous avez un projet encore plus ambitieux, l'écriture d'un scénario façon cadavre exquis. De quoi s'agit-il ? Expliquez.
Alors en fait, c'était vraiment le... Voilà, on fait cette revue de façon très sérieuse, hein, mais on a envie aussi de créer quelque chose d'un peu ludique. Donc on a demandé à des réalisatrices et scénaristes
que des femmes, c'est important,
de prendre le relais l'une de l'autre et de créer un scénario. Alors elles n'ont absolument aucune contrainte, sauf une contrainte de page. Donc on leur dit, ça doit faire 10 pages, donc un nombre de signes. Voilà, qui est donné. Ah mince. Mais sinon, voilà, c'est Catherine Corsini donc, qui a ouvert le bal avec un sacré scénario, puisqu'elle nous embarque en 2086. Et donc, c'est un film d'anticipation qu'elle commence à écrire. Et dans ce deuxième numéro, c'est Anna Cazenave-Cambé qui prend son relais. Et Anna Cazenave-Cambé sort son premier film prochainement, De l'or pour les chiens. Donc, on est ravis qu'elle ait pris le relais.
Mais s'il n'y a aucune limite, ça veut dire que peut-être ce film ne pourra jamais se tourner parce que ça va coûter trop cher.
Peut-être. Et en même temps, on l'espère parce que c'est vrai qu'on l'a fait.
Drôle,
on l'a quand même fait pour ça, voilà.
Faites un scénario en espérant qu'il ne se tourne jamais.
Non, qu'il se tourne justement, qu'on arrive à trouver une productrice.
Ah oui, mais si on fait de la science-fiction, c'est très très bien que ça coûte un bras. Faire de la science-fiction, ça coûte beaucoup plus cher.
On a 11 épisodes, hein, tel qu'on l'annonce, puisque 109 est censé faire 11 épisodes. Donc on a le temps de voir ça venir.
Il y a également une partie consacrée à l'actualité, dans la mesure du possible pour un semestriel. Ça s'appelle le cahier de tendance.
All my bags are packed, ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye.
On entend quelques notes de Living on a Jet Plane de John Denver. C'est la playlist de Barbara Carlotti qui continue. Titre qu'elle a choisi en référence à celui que vous interrogez dans ce cahier de tendance, le comédien metteur en scène Alex Lutz. L'entretien commence ainsi. Alex Lutz dit « J'attendais impatiemment la réouverture des salles, mais je suis un peu inquiet quant à l'embouteillage de films que ça va provoquer. » Vous aussi, ça vous inquiète ?
Oui, bien sûr, je crois qu'on est tous inquiets parce que bon, alors on se réjouit évidemment de la réouverture des salles le 19 mai, mais c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de films, un bouchon, un embouteillage, hein, vraiment, et il risque d'y avoir des blessés. Enfin, voilà, et c'est vrai qu'on s'inquiète beaucoup pour le sort du cinéma, justement, indépendant, et bien sûr que les blockbusters sont porteurs, ce sont des locomotives, ça permet aussi au cinéma indépendant et au cinéma d'auteur d'exister. Mais là, c'est vrai qu'on a envie de faire de la place au cinéma indépendant, au cinéma français. On a vu d'ailleurs, entre les deux confinements, que le cinéma français, justement, était très porteur.
Ouais. Réouverture dans deux mercredis.
Ouais.
Le 19 mai.
Compte.
Vous les comptez. Vous savez déjà le premier film que vous irez voir ?
Ah oui, bah, revoir, parce que du coup, j'en ai vu certains déjà. Mais j'irai revoir Garçon chiffon de Nicolas Maury et Mandibule de Quentin Dupieux.
Comment on fait un magazine de cinéma quand les salles sont fermées ?
Eh ben, on le fait, avec beaucoup d'espoir. On en parle d'ailleurs dans l'édito. Hein. Ça a été compliqué de l'imaginer, ce numéro, parce que justement, on était dans une phase un petit peu sombre. On n'avait pas de possibilité de se projeter. On a d'ailleurs eu 2 mois de retard par rapport à la sortie initiale, puisque ça doit être tous les 6 mois en librairie. Donc, il a fallu qu'on prenne un petit peu de recul et se demander justement comment parler de cinéma quand les cinémas sont fermés. Et c'est là que sont intervenus justement les dossiers thématiques, les feuilletons, les reportages. Il y a eu aussi ce besoin de s'accrocher à ces sections.
Il y a une chose que je n'ai pas dite, j'en profite pour le dire, pas de publicité dans French Mania, seulement les ventes et les abonnements. Ça se trouve en librairie, ça sort aujourd'hui, ça coûte 18,90€. French Mania numéro 2, des Français à Hollywood, c'est le gros titre qui barre la une. Merci d'avoir été avec nous, Ava Kahn. Vous êtes la co-rédactrice en chef de cette nouvelle revue. Dans un instant, on parlait d'un anniversaire, celui de la nuit du Ramadan qui fête ses 30 ans ce soir sur France 2. Ça démarre à minuit, moins 5. On en parle parle avec sa présentatrice Mayam Sora et la responsable des émissions religieuses de la chaîne, c'est Laurence Godon. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Bonjour Myriam Sera.
Bonjour Philippe Vandel.
Vous êtes présentatrice de télévision, vous êtes l'une des présentatrices météo de France 3, mais on vous a également vu chroniqueuse dans Télématin et vous avez animé Motus avec Thierry Beccaro jusqu'à la fin de l'émission en 2019. Auparavant, vous étiez sur la chaîne musicale MCM, donc votre ADN, si j'ai bien compris, c'est la musique.
C'est la musique, ça l'a toujours été.
Laurence Godon, bonjour.
Bonjour Philippe Vandel.
Vous êtes depuis un an coordinatrice de l'unité des émissions religieuses de France Télévisions. Ça consiste en quoi? Quel sens vous donnez à cette fonction?
Alors, les émissions religieuses donc, sont diffusées sur France 2 le dimanche matin. Et il y a sept émissions avec chaque émission a un producteur qui est sous la responsabilité de son autorité religieuse. Et voilà, moi je fais le lien, la coordination entre ces producteurs et la chaîne.
Vous êtes férue de psychanalyse, est-ce que vous êtes lacanienne?
Non, je ne sais pas.
Pas plus que ça.
Je ne sais pas.
Est-ce que vous avez déjà remarqué que dans votre nom, il y a God, qui veut dire Dieu en anglais, pour quelqu'un qui s'occupe d'émissions religieuses?
Tout à fait, tout à fait. Oui, oui, oui.
Et ça veut dire quoi, selon vous?
Je sais, je ne donne pas de sens à cela. Je pense que pour exercer cette fonction, il faut une ouverture d'esprit, il faut une curiosité sur le fait religieux et puis peut-être une sensibilité spirituelle, oui, en lien avec mon nom.
Et donc j'en déduis que vous pensez l'avoir.
Exactement.
Maintenant, ce soir, c'est la 30e nuit du Ramadan. Myriam Sera est contente, elle est en train de chercher ce qu'il y avait dans son nom. Et si elle a...
Yara. Je ne sais pas ce que vous voulez.
Non, mais il n'y a aucune question là-dessus. 30e nuit du Ramadan ce soir qui débute à 23h55, minuit moins 5. Juste un mot, du point de vue religieux, que signifie cette nuit? Elle veut dire quelque chose du point de vue religieux ou c'est juste une nuit de programmation de télévision?
Voilà, c'est un programme de télévision donc, qui a 30 ans. Ça fait 30 ans
de divertissement, on peut le dire. Hein.
Ouais. C'est vraiment un divertissement. C'est pas une émission religieuse, c'est une émission festive et donc ça fait 30 ans que France 2 accompagne ce programme. Non, ça ne correspond pas du tout à
la fin de la nuit du Ramadan.
Non, la nuit du Ramadan, c'est la semaine prochaine. A priori, ce sera le 13 mai.
Exactement, le 13 et le 14.
Voilà, on aura une confirmation des autorités religieuses dans la semaine prochaine. Voilà.
Alors, donc... La nuit du Ramadan, en fait, c'est 30 ans. Nuit du Ramadan un petit peu spéciale, car comme l'an passé, vous étiez en période de confinement pendant le tournage. Donc, pas de tournage en public, malheureusement, Myriam Sera. Donc, c'est donc une émission florilège. Qu'est-ce qu'on va voir à l'antenne?
Alors, on va voir à l'antenne des artistes confirmés, bien évidemment, de la musique. Enfin, moi, j'ai eu le privilège d'avoir des musiciens devant moi, ça faisait si longtemps. On aura aussi des invités comme Farida Khelfa, muse de Jean-Paul Gaultier, ou encore Kader Belarbi, grand danseur et chorégraphe, qui était là. Et puis, on a eu également un petit moment aussi avec les deux producteurs de l'émission, ceux qui ont inventé cette émission, Toufik Fares et Djelloul Begoura. Et on aura également l'occasion de voir plein d'images d'archives. On ouvre en fait les pages de souvenirs de cette émission qui fête donc ses 30 ans.
On voit Carte de séjour, on voit Khaled, Warda, Moustaki, Safo, Jean-Louis Aubert, Thomas Dutronc, Maxime Le Forestier. Il y a des petits nouveaux aussi. Hein. Il y a Benabar, il y a Zao, il y a le trio Ensemble, je vais en reparler. Il y a Cheb Hamidou, je ne savais pas qui c'était. Vous savez qui c'est Cheb Hamidou? C'est un phénomène, racontez.
C'est un phénomène qui a plusieurs millions de vues sur YouTube.
Alors je vais le dire, c'est vous qui donnez ce chiffre. 120 millions de vues sur YouTube avec simplement 12 chansons.
Incroyable.
Ce qui est quand même assez impressionnant. Vous êtes croyante, Myriam Sera?
Pas du tout.
Un jour, vous avez dressé votre pédigré très, très, très multiple. Là, je vous cite. Vous dites « Je suis athée. Ma mère est née au Maroc, de parents marocains. Mon père est franco-polonais. J'ai grandi dans une famille ouverte qui ne m'a jamais rien imposé et je suis mariée à un juif. On peut difficilement faire plus œcuménique. » C'est presque en programme.
C'est exactement ça. Et puis en plus, c'est pas antinomique d'avoir une présentatrice pour cette émission qui n'est pas du tout musulmane, puisque c'est une émission qui prône effectivement la tolérance et l'ouverture d'esprit. Donc tout va bien.
Vous recevez le trio Ensemble. Ce sont trois chanteurs classiques, chacun issu d'une des trois religions monothéistes. Il y a un juif, un musulman, un catholique, ils chantent ensemble. Ils chantent une chanson qui s'appelle « Pour le ciel », je le précise, le texte est de Marc Lavoine.
Oui.
Et ensuite, vous avez demandé à l'un des membres du groupe, son fondateur, Mathieu Delobier, il est prêtre à la paroisse Notre-Dame-de-Lorette. Vous lui avez demandé comment est né le projet de cet album qu'ils ont appelé « Liberté ».
Le projet est né à la suite des attentats du Bataclan, dans la tête d'un producteur qui s'appelle François Troller, qui a perdu des amis là-bas. Et puis, lorsque le père Hamel a été assassiné, il s'est dit avec sa compagne Fatih Amar, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour manifester que les religions, c'est pas seulement la violence. Et alors, il a eu l'idée de réunir trois chanteurs représentant trois religions différentes. Il voulait trois religieux au début, puis faute d'en trouver, il a pris trois chanteurs qui ne sont pas tous religieux, mais tous croyants, pour chanter des titres qui ne sont pas ni des cantiques, ni des chants de la synagogue, ni des chants musulmans, mais des chansons de tout le monde, des chansons populaires à trois voix engagées.
Pour le ciel et pour l'âme du ciel, innocents sacrifiés sur l'autel, pour que vienne la fin de notre rêve, pour que cesse le feu, pour que cesse le feu.
Laurence Godon, j'ai vu toute l'émission. Il faut attendre 1h20 d'émission pour entendre évoquer des sujets qui fâchent, des mots terribles, attentats ou assassinats. C'est un choix éditorial ?
Non, enfin, le choix, c'est une émission qui se veut festive, mais on n'occulte pas ces sujets d'actualité. Mm-hmm. Donc, effectivement, c'est la réalité. Mais il faut rappeler que le ramadan, c'est un mois sacré. Alors, même si cette émission s'adresse à tous les spectateurs, hein, croyants ou non. Mais malgré tout, voilà, le signe de la fête était important. Ouais. Voilà, et on n'occulte pas les sujets sérieux et d'actualité.
Et même Myriam Sora, j'ai retrouvé une interview de vous un peu ancienne qui datait de 2018. Vous racontiez la genèse de l'émission. Vous disiez qu'elle avait été lancée en 91 pour pallier la suppression de Mosaïque sur France 3. Et vous dites, là je vous cite, « À cette époque, l'émission a été diffusée 4 fois durant le mois du jeûne. Mais à l'époque, le mot ramadan n'avait pas la même résonance qu'aujourd'hui. Là, le contexte a complètement changé. »
Oui, c'est vrai, en raison des attentats, on peut dire que le mot ramadan, on a l'impression que parfois c'est un gros mot. Alors que pas du tout. C'est vrai que lorsque cette émission est née en 1991, elle faisait partie des émissions spéciales de France Télévisions. Et l'idée, c'était de mettre en exergue ce moment de fête qui arrive à la rupture du jeûne pendant ce mois de ramadan. Et d'ailleurs, la nuit du ramadan s'appelait les nuits du ramadan, puisqu'il y en avait 4 pendant ce mois de ramadan. C'était pas du tout une émission religieuse, encore une fois. Elle n'appartenait même pas au pôle religion de France Télé. C'était encore une fois une édition spéciale qui permettait aussi de mettre une programmation artistique un petit peu plus ouverte sur le monde. Et c'est ça, en fait, qui était chouette.
La programmation artistique ouverte est restée. On retrouve toujours ça dans l'émission. On continue de parler de la nuit du ramadan et d'une manière plus générale avec vous, Laurence Godon, des émissions religieuses sur France Télévisions parce que ça marche très très bien. On a découvert ça en préparant cette émission. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Je suis avec Laurence Godon. Nous étions en train de parler de cette nuit du ramadan. C'est ce soir à 12h05. Laurence, vous êtes coordinatrice de l'unité des émissions religieuses de France Télévisions. Et Myriam Sora, c'est vous qui présentez justement cette nuit ce soir. Je parlais de ce trio ensemble. Vous avez également interrogé le musulman du groupe parce que ce sont 3 chanteurs, un musulman, un catholique et un juif.
3 hommes de foi, voilà.
Avant d'être chanteurs, mais aussi, ils sont des chanteurs avérés. Oui. Il s'appelle Farid Abdelkrim. Dans la vie, il est comédien. Il est également médiateur en milieu carcéral et vous dit cette très jolie phrase. Il dit « Rassembler un juif, un musulman et un catholique, c'est peut-être naïf, mais on a besoin de naïveté en ce moment. »
C'est vrai. C'est vrai. Et puis en plus, je crois que cet ensemble met tout le monde d'accord. Hein. C'est-à-dire ces 3 voix unies sur un texte écrit par Marc Lavoine, comme quoi tout est possible.
Voilà, je suis d'accord. Et j'aime beaucoup cette exigence de naïveté. Laurence Godon, je l'ai dit, vous coordonnez l'unité des émissions religieuses de France Télévisions. Vous êtes en charge notamment de l'émission Le Jour du Seigneur, dont vous avez changé l'habillage récemment. Pendant la crise sanitaire, les scores d'audience ont plus qu'augmenté. 3 points d'audience de plus en un an. Comment vous l'expliquez ? C'est pas seulement le nouvel habillage.
Pas du tout. Oui, non, c'est pas le nouvel habillage. Je pense que c'est la preuve que le fait religieux intéresse et qu'il faut se poser ces questions. On parle beaucoup en ce moment de religion dans le débat actuel,
bien sûr,
avec la loi dite contre le séparatisme. Et effectivement, à France Télévisions, à France 2 notamment, on a une mission de service public de donner, à travers les émissions religieuses, des clés de compréhension et de de réflexion sur le fait religieux, sur la diversité religieuse, et c'est ce qu'on essaie de faire.
Ouais. Je rappelle que le mot religion veut dire lié ensemble, donc c'est l'inverse du séparatisme. Exactement. Donc c'est pour ça que c'est très important le travail que vous faites. Un mot de technique, on a une émission média ici, le confinement a mécaniquement fait monter les courbes d'audience, que les gens sont chez eux, donc ils regardent davantage la télévision, mais ce qui est assez incroyable et ce qui vous a surpris, comme beaucoup d'observateurs, c'est qu'une fois qu'il y a eu la période de déconfinement, les gens sont restés. Les gens ont continué à regarder les émissions. Et c'est là où je voulais en venir. Est-ce que vous l'expliquez, tant est que ça puisse s'expliquer ? Vous pensez qu'il y a une demande ?
Oui, il y a une demande, c'est ce que je vous disais. Je pense que le fait religieux intéresse. Et les audiences sont d'ailleurs sont restées très importantes, notamment pour la messe. Mm-hmm. Et je pense que certains téléspectateurs ont découvert ce rendez-vous. Des téléspectateurs qui ne pouvaient plus se déplacer ont redécouvert ce rendez-vous du dimanche matin.
Alors, il faut dire que vous avez également travaillé sur toutes les émissions religieuses du dimanche matin. Il y en a combien, vous me disiez ? Il y en a 6, 7 ?
Il y en a 7.
Ça va de sagesse bouddhiste à présence protestante. On passe évidemment par les trois grandes religions monothéistes. Vous avez voulu unifier ces émissions et ça passe également par le son. On a fait un focus là-dessus parce qu'ici on est à la radio. Et notre réalisateur Nicolas Souvent a pris les 5 génériques, sagesse bouddhiste, islam, à l'origine orthodoxie et présence protestante. Et ce que vous avez fait, c'est que vous avez décidé d'en faire, même de manière sonore, de les unir. C'est bien ça. Il a fait un mix, on écoute et on en parle. Qu'on a entendu 5 génériques différents. Et donc, c'est là où on voit votre patte. Et visuellement, j'imagine qu'il y a des éléments qui se retrouvent de l'un à l'autre.
Exactement, oui. Je voudrais saluer d'ailleurs le travail de l'agence 17 mars avec qui on a construit ce chantier en 2020. Et surtout, souligner le travail d'Alex Jaffray, qui est également journaliste à Télématin et qui a composé cette musique pour les émissions religieuses. Il fallait vraiment dépoussiérer un petit peu, puis recréer une unité dans toutes ces émissions. Et donc voilà le beau travail. Et je voudrais juste les citer, ces 7 émissions. Donc on commence la matinée par Sagesse bouddhiste, puis l'islam à l'origine, qui est le culte juif, les chrétiens orientaux, orthodoxie, présence protestante et le jour du Seigneur.
Merci beaucoup, merci pour ces infos. Laurence Godon, coordinatrice de l'unité des émissions religieuses de France Télévisions, et Myriam Sera, présentatrice de la météo. C'est quand la prochaine grande journée de beau temps ?
Oh, je savais que j'allais vous piéger. Je suis encore en vacances. Voilà.
Et surtout, présentatrice ce soir à minuit moins 5 de la nuit du Ramadan. Merci d'avoir été avec nous. Culture Média continue dans un instant. Après le rappel des titres, on va recevoir Eva Rock pour son zapping du lendemain avec un superbe live de la chanteuse Juliette Armanet et Bertrand Chamerois et son écran de veille qui s'amuse avec la langue française. Nos invités seront Flore Benguigui et Charles de Boisguin. C'est le groupe L'Impératrice. C'est un tiers du groupe L'Impératrice qui sont 6. Ils sortent l'album Taco Tsubo, traduit japonais, ça donne piège à poulpe. On va leur demander ce que ça veut dire pour de vrai. Et puis dans les indispensables, un manga et de la BD. A tout de suite.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes férus de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor. Vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires?
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.